Chapitre 46. Alors qu'elle suivait le messager, Verna s'écarta pour laisser passer une colonne de cavalerie. Les montures avaient les flancs souillés de boue et les naseaux frémissants d'excitation. Le regard plein de détermination, les soldats qui les chevauchaient se penchaient sur leur encolure pour offrir moins de résistance au vent. Avec l'activité fébrile qui régnait dans le camp ces dernières semaines, Verna devait prendre 1000 précautions chaque fois qu'elle sortait de sa tente. Quand ce n'étaient pas des chevaux lancés au galop qui risquaient de la renverser, des fantassins marchant au pas de course pouvaient très bien s'en charger.
« C'est juste devant !»
dit le messager par-dessus son épaule. Quand il tourna à demi la tête, Verna lui sourit poliment. C'était un charmant jeune homme dont les cheveux blonds bouclés et les bonnes manières lui rappelaient irrésistiblement Warren. Comme toujours quand elle songeait à la disparition de son bien-aimé, Verna fut sans défense contre la vague de chagrin qui déferla en elle. Comme la vie était vide depuis que Warren n'était plus là. Même sous la torture, elle n'aurait su dire le nom du messager. Il y avait tant de jeunes hommes qu'on ne pouvait retenir tous leurs prénoms. Au moins, en ce moment, ils ne tombaient pas comme des mouches. En Dara, l'hiver était terriblement rigoureux, mais il avait imposé une trêve bienvenue après les batailles de l'été et de l'automne précédents. Mais les beaux jours revenaient et ce répit touchait à sa fin. Pour l'instant, l'école résistait. Dans un espace confiné, la supériorité numérique de l'adversaire comptait beaucoup moins. Si un seul homme pouvait passer par une ouverture, il importait peu qu'il soit suivi de 100, de 1000 ou de 100 000 compagnons. Pour être tranquille, il suffisait de pouvoir repousser un seul envahisseur, une tâche qui n'avait rien de surhumain. Entendant de lointains roulements de tonnerre, Verna leva les yeux au ciel. Depuis 2 jours, le soleil n'avait pas daigné se montrer. Les nuages qui s'accumulaient au-dessus des pics avaient une allure qui ne plaisait guère à la dame abbesse. Un sacré orage se préparait. Cela dit, ce n'était peut-être pas le tonnerre qu'elle avait entendu, mais l'écho des attaques magiques qui martelaient sans cesse les champs de force protecteurs. Ce type d'acharnement ne menait à rien, mais il tapait sur les nerfs des défenseurs, les empêchant de dormir, et les sorciers ennemis devaient trouver que c'était une bonne raison de continuer. Une partie des soldats et des officiers que croisait Verna lui adressait un petit salut amical. Pour l'instant, la dame abbesse n'avait pas vu une seule sœur de la lumière. Beaucoup devaient être occupés à maintenir les champs de force pour barrer le passage aux soldats de l'ordre. Zed leur avait conseillé d'être prête à parer à toutes les éventualités, si bizarres puissent-elles paraître. Jour et nuit, Verna passait mentalement les défenses en revue, en quête d'une faille qui aurait pu échapper à son attention. Car si l'ennemi traversait, il n'y aurait plus rien pour l'empêcher de s'enfoncer en Dara, à part l'armée de défenseurs, mais sa terrible infériorité numérique la condamnait d'avance. Verna n'avait trouvé aucun défaut dans l'armure de l'Empire d'Aran, mais elle s'inquiétait quand même. La bataille finale était pour très bientôt. Et que fichait donc Richard? Selon les prophéties, il avait un rôle essentiel à jouer dans la lutte de l'humanité contre la tyrannie. Le choc ultime approchait, et le seigneur Hall risquait de manquer à l'appel au moment crucial. Depuis des siècles, les prophéties annonçaient que le sourcier dirigerait le camp de la liberté. Il ne pouvait pas avoir trouvé plus urgent à faire ailleurs, n'est-ce pas? Verna connaissait la loyauté de Richard et de Callan. Douter d'eux était injuste, mais les hordes de Jagang approchaient et le seigneur Ral tardait à arriver. Bien que les messages d'Anna dans le livre de voyage fussent des plus lapidaires, Verna avait compris que de gros ennuis se profilaient. Entre les lignes, elle avait deviné que la véritable dame abbesse était profondément troublée. En tout cas, Nathan et elle étaient repartis vers le sud pour entrer dans l'ancien monde. Peut-être, pour ne pas ajouter aux angoisses de Verna, la vieille dame restait avare d'explications. La dame abbesse, par intérim, ne la bombardait pas de questions. Quand elle avait demandé pourquoi Anna s'était alliée au prophète au lieu de lui passer un collier autour du cou, la réponse ne l'avait pas du tout avancée. Un livre de voyage, avait écrit Anna, n'était pas l'endroit idéal pour parler de ce genre de sujet. Même s'il faisait parfois des choses fort utiles, Nathan était un homme dangereux. Verna l'avait toujours jugé ainsi et elle n'était pas disposée à changer d'avis. Un orage apportait la pluie dont la nature entière avait besoin pour vivre. Pourtant, être frappé par la foudre ne faisait aucun bien. Pour avoir décidé d'unir leurs forces, Anna et Nathan devaient être face à d'énormes ennuis. Verna dut faire un effort pour se rappeler que tout n'était quand même pas contre eux. L'armée de Jagang avait encaissé de terribles coups portés par Zed et Adi. Après ce désastre, l'empereur avait décidé de se désintéresser d'Aïdindril. Pour l'instant, la forteresse du sorcier restait inexpugnable. Malgré son désir de la conquérir, Jagang avait dû rester sur sa faim. Zed et Adi continuaient à défendre la forteresse. De ce côté-là, tout allait bien et c'était un atout majeur dans la manche de l'Empire d'Aran. La magie que contenait la forteresse pouvait inverser le cours de la guerre. Même si elle ne l'aurait pas reconnue à voix haute, le vieux sorcier manquait à Verna. Elle appréciait sa sagesse, ses conseils, son étrange humour. En voyant son grand-père, on ne se demandait plus d'où Richard tenait ses qualités. Verna s'immobilisa quand elle vit Rika venir vers elle. Au passage, elle saisit la mort de Cid par le bras.
« Un problème, Dame Abbesse ?
Tu sais de quoi il s'agit ?
Que voulez-vous dire ?»
Le messager s'arrêta de l'autre côté d'un carrefour où se croisaient plusieurs pistes. Des chevaux avançaient dans toutes les directions ainsi qu'un chariot chargé de tonneaux d'eau. Des hommes en armes patrouillaient le long d'une des pistes. Entouré d'un replat défensif, le camp était peu à peu devenu une sorte de mégalopole improvisée.
« Il se passe quelque chose, » dit Verna.
« Désolé, mais je ne suis pas au courant. »«
Tu es occupé ?»«
Rien qui ne puisse attendre. »«
Alors, accompagne-moi. »
Verna se remit en chemin et la mort de Cid la suivit.
« Le général Meffert m'a fait demander. Il vaut mieux que tu viennes aussi, comme ça, s'il a également besoin de toi, nous aurons gagné du temps. »«
Si vous le dites. »
La mort de Cid se rembrunit.
« Vous ne savez vraiment pas de quoi il est question ?»
Sans quitter du regard le messager qui slalomait entre des tentes, des chariots et des groupes d'hommes, Verna jeta un coup d'œil à Rika.
« Absolument pas. Mais t'est-il déjà arrivé de te réveiller avec le sentiment que quelque chose n'allait pas ? Comme si la journée s'annonçait mauvaise, mais sans que tu saches dire pourquoi. »
« Quand une journée s'annonce mauvaise... C'est en général pour les autres et très souvent à cause de moi. »
Verna ne put s'empêcher de sourire.
Dommage que tu n'aies pas le don, tu ferais une très bonne sœur de la lumière. Je préfère être une mort de Cid et protéger le seigneur Ral.
Par là, Dame Abbesse,
dit le messager.
Le général vous attend sous cette tente, près des arbres.
Verna remercia le jeune homme. Puis Rika et elle se dirigèrent vers la tente isolée où les officiers aimaient bien recevoir, loin des oreilles indiscrètes, les éclaireurs qui revenaient de mission. Quelles pouvaient être les nouvelles ? Aucune alarme n'ayant retenti, l'école ne devait pas être tombée, et l'activité dans le camp ne semblait pas plus frénétique qu'à l'accoutumée. Un garde reconnut la dame Abbesse et passa la tête sous la tente pour annoncer son arrivée. Le général sortit aussitôt et se précipita vers les deux femmes. Si une inflexible détermination brillait dans ses yeux, Meffert était d'une pâleur inquiétante.
« J'ai croisé Rika, »
expliqua Verna tandis que l'officier la saluait, « et j'ai pensé que sa présence pourrait être utile. »«
Une bonne initiative. Entrez, je vous en prie. »
Verna tira sur la manche du général.
« Que se passe-t-il ? Encore des ennuis ?»
L'officier regarda tour à tour les deux femmes.
« Nous avons reçu un message de Jagang. »«
Comment un envoyé de l'empereur a-t-il pu franchir nos lignes vivants ?»
demanda Rika à l'air très sombre. Personne n'avait le droit de passer, même pas une souris. Tout pouvait être un piège mortel.
« C'était un petit chariot tiré par un seul cheval, » expliqua Meffert. « Les hommes l'ont laissé passer car ils se souvenaient de vos ordres. »
Verna fut très surprise que le curieux message d'Anna au sujet d'un chariot vide ait ainsi des allures de prophétie.
Elle se jura d'enquêter plus tard sur la question.
« Un chariot est arrivé tout seul ? Il était vraiment vide ? » ?»«
Pas exactement, mais les soldats l'ont cru. Le cheval était apparemment habitué à tirer un chariot sur une piste, et il avançait sans avoir besoin d'un cocher.
Voyant que Verna était largué, Meffert fit la grimace, puis il se détourna de la tente.
« Venez, je vous montrerai. »
Il conduisit les deux femmes un peu plus loin et ouvrit le rabat de la troisième tente d'une longue rangée. Verna se pencha et entra, Rika et l'officier lui emboîtant le pas. À l'intérieur de la tente, une jeune novice nommée Holly était assise sur un banc à côté d'une petite fille terrorisée qu'elle tentait de calmer.
« J'ai demandé à Holly de rester avec elle, » expliqua le général. « J'ai pensé que ça l'angoisserait moins que la présence d'un soldat. »«
Vous avez bien fait, » dit Verna. « C'est elle qui nous apporte le message ?»
Mais Furt hocha la tête.
« Elle était assise à l'arrière du chariot. C'est pour ça que nos hommes ont cru qu'il était vide. »
Verna comprit comment le messager avait pu passer. Les soldats n'étaient pas du genre à tuer une fillette et les sœurs qui montaient la garde avaient dû s'assurer aisément qu'elle n'était pas une menace. La dame abbesse se demanda ce que Zed aurait pensé de tout ça. Pour lui, le danger pouvait adopter toutes les apparences. Elle approcha du banc, se pencha en avant et sourit.
« Je m'appelle Verna. Tu vas bien, mon enfant ?»
La fillette hocha la tête.
« Tu as faim ?»
Ses grands yeux écarquillés d'inquiétude, la petite hocha de nouveau la tête.
« Dame abbesse, » dit Holly, « Valérie est allée lui chercher un repas. »
« Parfait, » fit Verna sans cesser de sourire. Elle s'agenouilla et tapota la main de l'enfant.
« Tu habites dans le coin, ma chérie ?»
La fillette tenta d'évaluer la femme qui se tenait devant elle. Représentait-elle un danger ou lui voulait-elle du bien ?«
Je vis un peu plus loin au nord, madame. »
« Et quelqu'un t'a envoyé à nous ?»«
Mes parents sont de l'autre côté du col, entre les mains des soldats. » « Des hommes sont venus et ils nous ont invités à les accompagner. Nous sommes restés avec eux pendant quelques semaines et aujourd'hui on m'a dit d'apporter une lettre aux gens qui ont un camp de l'autre côté d'école. En échange, j'aurai le droit de rentrer chez moi avec mes parents. »
Verna tapota de nouveau les petites mains de l'enfant.
« Je vois. Tu es très courageuse et tu as bien raison d'aider tes parents. »«
Je veux rentrer chez moi. »
« C'est pour bientôt, ma chérie. »
Verna se redressa. « Mais tu vas d'abord manger, histoire d'avoir le ventre bien plein avant de retrouver tes parents. » La fillette se leva et fit une révérence.
« Merci de votre gentillesse. Après avoir mangé, je pourrai partir ?»«
Bien entendu. Je vais lire la lettre pendant que tu te régaleras, puis tu iras rejoindre tes parents. »
Non sans avoir jeté un coup d'œil inquiet à Rika, la petite se rassit et se serra contre Holly. Jouant à merveille la décontraction, Verna dit joyeusement au revoir à l'enfant, puis elle sortit de la tente, la mort de Sith et le général sur les talons. Que pouvait mijoter Jagang ?
« Que dit cette lettre ? »
demanda Verna en s'immobilisant devant la tente de réunion.
« Il vaudrait mieux que vous la lisiez, dame abbesse, » répondit Meffert. « Certains passages sont très clairs et fort peu réjouissants. Les autres... « Eh bien, j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne. »
Quand elle entra sous la tente, Verna vit que le capitaine Zimmer attendait dans un coin. Et pour une fois, il n'affichait pas son éternel sourire. Zimmer commandait les forces spéciales d'Aran, des troupes d'élite chargées de marauder au-delà des lignes ennemies et de tuer autant de soudards que possible. Bien que les réserves de Jagang aient semblé inépuisables, le capitaine paraissait résolu à les assécher. Ces hommes étaient de véritables experts. Lors de chaque mission, ils collectaient des oreilles qu'ils montaient en collier. À une époque, Kallan demandait à voir leur cueillette chaque fois qu'ils revenaient au camp. La mère inquisitrice leur manquait beaucoup. Un coup de tonnerre fit trembler le sol. L'orage éclaterait bientôt. Meffert prit sur un bureau de campagne une feuille de parchemin pliée et l'attenda à Verna.
« C'est le message. »
Sous le regard maussade des deux officiers, la dame abbesse commença sa lecture.
J'ai capturé le sorcier Zorender et une magicienne nommée Adi. Désormais, la forteresse et son contenu sont à moi, et mon chapardeur me livrera bientôt le seigneur Rahl et la mère inquisitrice.
Vous n'avez plus aucune chance de vaincre. Si vous vous rendez, j'épargnerai vos soldats. Sinon, nous ne ferons pas de prisonniers. Jagang le Juste.
Créateur bien-aimé, soupira Verna.
Les genoux soudain flageolants, elle baissa le bras qui tenait la lettre. Rika la récupéra, la lut et lâcha un abominable juron.
« Il faut les libérer !»
s'écria-t-elle.
« Nous devons tirer Zed et Adi de cet enfer !»«
C'est impossible, hélas !»
dit le capitaine Zimmer. Rika s'empourpra de fureur.
« Zed m'a sauvé la vie, et à vous tous aussi, nous ne pouvons pas l'abandonner !»
Comparé à Rika, Verna parla d'un ton quasiment paisible.
« Nous sommes tous d'accord. Nous devons tous une fière chandelle, voire plusieurs, à Zed. Hélas, Jagang lui fera payer très cher ses exploits. »
Rika brandit rageusement la lettre.
« Nous allons le laisser crever comme un chien sous le regard ravi de Jagang ? Non, il faut nous glisser dans le camp ennemi et... »
« Maîtresse Rika !»
coupa Zimmer, une main posée sur la poignée du coutelas qu'il portait à la ceinture.
« Si je vous disais qu'un homme est caché dans une des centaines de milliers de tentes d'un camp, et si je vous mettais au défi de le trouver, combien de temps vous faudrait-il ? Même en admettant que personne ne vous ennuie et qu'on vous laisse chercher librement. »«
Adi et Zed ne sont pas détenus dans n'importe quelle tente, »
objecta Rika.
« Le message de Jagang est très vite arrivé ici parce que c'est l'endroit où on échange des informations. Il y a une logique à tout, même chez l'ordre impérial. »«
J'ai été dans le camp ennemi tant de fois que j'en ai perdu le compte, »
dit Zimmer.
« Sa taille dépasse l'imagination. Des millions d'hommes y sont cantonnés. Ce camp est un repère d'assassins et de violeurs. Il y règne une anarchie qui nous permet d'entrer, de frapper et de fuir aussitôt après. Mais il ne faut pas s'attarder parmi les soldats de l'ordre. » Ils savent identifier les intrus, surtout quand ils ont les cheveux blonds. De plus, il existe une hiérarchie au sein de ces hommes. Les soldats du rang sont des molosses que Jagang lâche quand il veut faire dévorer une proie. Mais ils n'ont pas accès à ce qu'on peut nommer le cercle intérieur du camp. Et les soldats qui protègent la zone sécurisée ne sont pas des brutes sans cervelle. Ces gardes spéciaux sont assez peu nombreux, mais il s'agit de professionnels entraînés. Ils sont vifs, vigilants et redoutables. Si vous parveniez par miracle à traverser les lignes de Soudar pour atteindre le cœur du camp où on garde les prisonniers importants, ces soldats d'élite vous décapiteraient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Sans compter que les sœurs de la lumière et de l'obscurité veillent aussi sur cette partie du camp. Ce sont elles, avec leur magie, qui forment le deuxième cordon de sécurité. Le troisième est constitué par la garde personnelle de Jagang. Des hommes qui combattent depuis des années avec l'empereur. Au moindre geste suspect, ils peuvent tuer n'importe qui en un clin d'œil. S'ils entendent parler d'une personne qui dit du mal de l'empereur, ils l'arrêtent, la torturent, puis la mettent à mort. Maîtresse Rika, n'allez pas croire que mes hommes et moi refusons de risquer notre vie pour Zed. En revanche, nous ne sommes pas prêts à mourir pour rien.
Aucune déclaration n'aurait pu ressembler davantage à la sonnerie d'un glas. Le général brandit la lettre que Rika venait juste de lui rendre.
Vous savez ce qu'est un chapardeur, dame Abbess ?
Oui, un voleur d'âme.
Pardon ?
Pendant les grandes guerres, il y a 3000 ans, les sorciers transformaient des êtres humains en armes. Ceux qui marchent dans les rêves, comme Jagang, appartiennent à cette catégorie. Un chapardeur est une créature très proche de l'empereur, à une différence près. Quand il s'introduit dans l'esprit d'une proie, le chapardeur lui vole son âme. Bref, il ne se limite pas à contrôler sa victime.
Pourquoi lui voler son âme ?
Demanda Rika mal à l'aise.
Je n'en sais rien.
Verna soupira de frustration.
Modifier les sorciers et les magiciennes est une très ancienne pratique. En général, chaque arme avait un but bien précis. Les sorciers utilisaient la magie soustractive pour éliminer certaines caractéristiques de leurs cobayes et l'additive pour en ajouter ou en améliorer d'autres. En somme, ils créaient des monstres. Je ne suis pas experte en ce domaine. Lorsque j'ai été bombardé d'Amabès, j'ai eu accès à des grimoires dont j'ignorais jusqu'à l'existence. C'est là que j'ai trouvé des références aux chapardeurs. Leur mission était de voler des âmes, c'est tout ce que je sais. L'art de modifier les êtres est heureusement perdu depuis très longtemps. Je ne me suis pas appesanti sur le sujet, mais j'ai retenu que les chapardeurs étaient terriblement dangereux.
Un art perdu depuis longtemps, murmura Meffert. Il semblait faire un gros effort pour ne pas exploser. Les anciens sorciers le maîtrisaient. Mais comment s'y prend Jagang? Il n'a même pas le don. Est-ce possible qu'il mente?
Verna réfléchit quelques instants.
Il a sous son contrôle des sorciers et des magiciennes capables d'utiliser la sorcellerie du royaume des morts. Donc, il doit pouvoir fabriquer des monstres.
Comment?
Insista Meffert.
Ce salaud n'est même pas un sorcier.
Verna croisa les mains dans son dos.
Il a à sa disposition des sœurs de la lumière et de l'obscurité. En principe, ça devrait lui suffire.
L'empereur a étudié l'histoire. Il accorde une très grande valeur au livre et il en a une formidable collection.
Nathan trouvait ça très inquiétant et il a détruit beaucoup d'ouvrages pour qu'il ne tombe pas entre les mains de Jagang.
Mais l'empereur en avait déjà beaucoup et maintenant qu'il contrôle la forteresse, il a accès à de fabuleuses bibliothèques. Comme vous vous en doutez, elles sont pleines d'ouvrages très dangereux, sinon ils auraient été entreposés ailleurs.
Et maintenant, Jagang peut en faire ce qu'il veut,
lâcha Meffert, sinistre. Il agrippa le haut du dossier de la chaise placée devant le bureau et s'y appuya.
Vous croyez qu'il tient vraiment Zed et Adi?
Cette question faisait briller une étincelle d'espérance dans les ténèbres. Avant d'y répondre, Verna prit le temps de choisir ses mots. Depuis qu'elle avait lu le message, elle tentait de s'accrocher à ce minuscule espoir, mais les illusions ne menaient jamais à rien.
Selon moi, Jagang n'est pas homme à se vanter d'un exploit imaginaire. Je crois qu'il dit la vérité.
Le général lâcha la chaise, encaissa le coup et posa une question plus terrifiante encore.
« Vous croyez que le chapardeur lui livrera bientôt le seigneur Râle et la mère inquisitrice ?»
Verna se demanda si c'était la raison du départ précipité pour le sud d'Anna et de Nathan. Richard et Callan s'y trouvaient et rien n'était plus prioritaire que leur sécurité. Le chapardeur s'était-il déjà emparé de leurs âmes? Si Anna le savait, ça expliquait pourquoi elle était si peu prolixe au sujet de son voyage.
« Je n'en sais rien, »
finit par répondre Verna.
« Je crois que Jagang vient de commettre une erreur, »
dit le capitaine Zimmer.
« Laquelle ?»
demanda Verna.
« Il nous informe que l'école lui donne du fil à retordre. Nos défenses lui posent un problème et il ne sait plus que faire. Les rigueurs de l'hiver lui ont coûté beaucoup d'hommes. Les soldats tombaient comme des mouches victimes du froid ou de maladies. » S'il ne passe pas pendant la bonne saison, Jagang devra attendre un autre hiver, et il y aura une deuxième hécatombe.
« L'empereur s'en fiche, »
lança Meffert.
« Il a des réserves inépuisables de soldats. »«
Vous ne souscrivez pas à l'analyse du capitaine, général ?»«
Sans qui, Verna ?»«
Si, si, Zimmer a raison. Jagang voudrait en finir le plus vite possible, mais pas pour épargner ses hommes. » À mon avis, il a hâte de régner sur le monde. Sa patience est légendaire, mais là, l'objectif est à portée de main et nous sommes le dernier obstacle à surmonter. Les soldats aussi doivent être pressés de recevoir leur part du butin. Diviser le nouveau monde en fondant sur Aedindril l'a rapproché de son but. En même temps, ça l'en a éloigné. S'il ne peut pas franchir l'école, il décidera peut-être de reculer jusqu'à Vallée de Cairn pour entrer en Dara par le sud. S'il ne traverse pas l'école maintenant, ça impliquera une très longue marche et ses plans seront retardés.
Mais il triomphera quand même à la fin. Pour gagner du temps, il propose de ne pas tuer nos hommes.
Négocier avec le mal est toujours une grossière erreur,
dit Verna.
Je suis d'accord,
précisa aussitôt Meffert.
Si nous le laissons passer, il massacrera tous nos soldats.
Un long silence suivit cette déclaration.
Nous devrions lui répondre,
dit enfin Rika.
Lui dire que nous ne le croyons pas et qu'il devra nous envoyer les têtes de Zed et d'Adi pour nous convaincre.
Le capitaine Zimmer eut un sourire amer.
Si Jagang les tient vraiment, dit Meffert, nous ne pouvons rien faire pour eux. Tôt ou tard, il les tuera pour se venger de ce qu'ils lui ont fait à Aedindril. Mais d'abord, il les torturera longuement, comme il aime le faire.
« Donc l'idée de Rika vous paraît bonne ?» demanda Verna.
« J'ai horreur de baisser les bras, mais là, il n'y a rien à faire. Ne faisons pas à Jagang le plaisir de connaître nos véritables sentiments. »
Verna eut la nausée à l'idée que Zed et Adi soient torturés par les bourreaux de Jagang et les sœurs de l'obscurité. Mais pour les forces d'Aran, perdre le vieux sorcier serait une catastrophe. Personne n'avait le dixième de son expérience. Un homme irremplaçable, voilà ce qu'il était.
« Écrivons une lettre à Jagang, » dit Verna, « et prétendons que nous ne le croyons pas. »«
Ça le privera de ce qu'il désire le plus, » renchérit Rika, « savoir que nous renonçons à la lutte. »
Mais Furt tira la chaise et invita Verna à s'asseoir pour rédiger le message.
« Si l'empereur est furieux, il nous enverra peut-être vraiment les têtes de Zed et d'Adi. Ça épargnera d'atroces souffrances à nos amis, et c'est tout ce que nous pouvons faire pour eux. »
Verna dévisagea ses compagnons et lut dans leur regard une détermination d'acier. Une fois assise, elle ouvrit l'encrier et prit une feuille de parchemin vierge dans une boîte. Avant de tremper sa plume dans l'encre, elle prit le temps de réfléchir à ce qu'elle allait écrire. Quel ton emploierait Kalan dans une situation pareille? Quand elle eut trouvé, la dame abbesse écrivit à toute allure.
« Je doute que tu sois assez compétent pour capturer le sorcier Zorender, et dans le cas contraire, tu nous aurais envoyé sa tête en guise de preuve. Ne me fais plus perdre mon temps avec tes pleurnicheries, Jagang. Si tu es trop stupide pour franchir nos défenses, ne compte pas sur nous pour te faciliter la tâche. »«
J'adore !»
dit Rika, qui avait lu par-dessus l'épaule de la dame abbesse.
« Je signe de quel nom ?»
demanda Verna.
« Celui qui inquiétera et agacera le plus Jagang, » répondit le capitaine Zimmer.
Verna réfléchit quelques secondes, puis l'évidence s'imposa à elle.
« La mère inquisitrice, » ajouta-t-elle au pied du texte.